Voilà, bien bonjour à tous. J'espère que vous m'entendez jusqu'au bout de cette magnifique salle. Donc, chers amis, chers collègues, mesdames, messieurs, c'est vraiment un très, très grand plaisir et un honneur pour moi que de vous souhaiter la bienvenue à l'Université libre de Bruxelles, pour ceux qui n'en font pas partie, et d'y ouvrir ce colloque sur l'évaluation de la recherche en question dans le cadre des séminaires Ilia Prigogine, Penser la science. Alors, en tant que vice-recteur à la recherche de notre université, je peux évidemment que me féliciter de l'organisation d'une réflexion approfondie et sereine autour de cette question qui touche tous les chercheurs de nos institutions. Et je suis ravi, à ce titre, de compter parmi vous un certain nombre de collègues d'autres universités que je suis très, très heureux de revoir ici, de nos institutions. Et en effet, comme vous le savez tous, comme nous le savons tous, les chercheurs, les enseignants-chercheurs que nous sommes, les travaux de ces chercheurs, nos travaux, sont régulièrement, très régulièrement évalués. Et ce processus d'évaluation fait partie de la vie quotidienne des chercheurs depuis leurs premiers pas. Et je vois un certain nombre de jeunes chercheurs dans la salle, mais donc depuis leurs premiers pas dans le monde scientifique. Alors, de toute évidence, et comme indiqué dans la note de présentation du colloque, l'évaluation de la recherche a connu des changements importants ces dernières années. Alors, au-delà ou aux côtés de l'analyse experte par les pairs, l'analyse qualitative par les pairs des projets ou des résultats de recherche, le souhait, légitime ou non, et ce sera déjà un premier élément de débat aujourd'hui, d'objectiver autant que possible ou le mieux possible les qualités respectives des candidats ou d'équipes qui concourent à un même financement, a mené à la mise en place d'un certain nombre d'indicateurs. Alors, citation, impact facteur, index H et d'autres font partie désormais d'un vocabulaire courant dans le monde scientifique et chacun en connaît ou croit en connaître, et certainement qu'aujourd'hui cet élément fera partie du débat, croit en connaître les biais potentiels et pourrait sûrement citer dans son domaine un exemple illustratif. Je ne résiste pas à vous en citer un potentiel. On parle de citation, les papiers les plus cités, question qui peut se poser, sont-ils ceux qui ont rapporté les plus importantes découvertes scientifiques. Et donc, à cet égard, des éditeurs, journalistes de Nature, je suis retombé sur ce papier, ont examiné cette question sur l'ensemble de la littérature scientifique. Et le papier le plus cité est très largement en tête, avec 305 148 citations, est intitulé « Protein Measurement with Choline Phenol Reagent », appelé plus communément, pour ceux qui sont dans le domaine, « La méthode de Lowry », et qui a été publié en 1951. En titre de comparaison avec cela, la publication Prinkeps de Watson et Crick, qui décrit la structure en double hélice de l'ADN, que vous connaissez, 5207 citations. Ce qui fait conclure, et chacun en tirera les conclusions qu'il voudra, évidemment, mais ce qui fait conclure à Peter Moore, je cite un chimiste de Yale University, « If citations are what you want, devising a method that makes it possible for people to do the experiment they want at all or more easily will get you a lot further than, say, discovering the secret of the universe. » Cette évolution, chacun pourra trouver l'un ou l'autre exemple. Cette évolution de l'évaluation de la recherche progressive, néanmoins variable d'une institution, voire d'une discipline à l'autre, a suscite des réactions en sens divers, de nombreuses questions, dont certaines sont abordées dans la note de présentation du colloque, seront évidemment abordées au cours de cette journée et sont également discutées, analysées, parfois de manière fort critique, comme vous le savez, dans de très nombreuses publications scientifiques parmi les plus prestigieuses, un terme prestigieux, un terme s'il en est, à utiliser avec caution et qui fera, je n'en doute pas, l'objet de points de discussion aujourd'hui. Alors, apporter un certain nombre d'outils avec le souhait d'objectiver l'évaluation de la recherche, mène-t-il à une certaine standardisation de cette évaluation? Y a-t-il une tendance à la sélection de domaines de recherche qui serait favorisée par le biais de systèmes d'évaluation? Quelles en sont les conséquences sur les publications elles-mêmes, sur les stratégies d'éditing et de sélection de ces revues? Et surtout, quelles sont les conséquences pour la carrière future des jeunes chercheurs? Et il y a bien d'autres questions qui sont soulevées à la fois dans la littérature et dans la note de présentation de ce colloque. Il n'en reste pas moins que l'importance d'un regard extérieur et donc d'un processus d'évaluation par des pairs pour se situer dans le contexte de son domaine, de son institution, voire autre, est reconnu par les chercheurs. On verra aujourd'hui si c'est bien le cas, mais reconnu par les chercheurs. Il ne s'agit pas, me semble-t-il, de casser le thermomètre et d'abolir toute prise de température. Dans ce contexte, de multiples institutions, groupes de réflexion ou autres auteurs ont émis des recommandations, et on y reviendra, ça sera peut-être l'objet ultime de ce colloque, des recommandations telles que celles proposées par le manifeste de Leiden, qui, ceci dit, ne remet pas forcément en question l'utilisation des systèmes actuels. À l'évidence, une question centrale, néanmoins qui rythme ce parfois douloureusement la vie des chercheurs, est la recherche de financement qui leur permette de réaliser leurs projets, leurs rêves de recherche. Dès lors, les difficultés attribuées par certains aux sélections sur base d'évaluation renforcée ne proviennent-elles pas, c'est une question, pour une large part, plutôt de la restriction du financement de la recherche qui rendrait ou qui rend la lutte pour les moyens plus aigus. Alors, nos institutions et agences de financement ont-elles les moyens, question à nouveau, de maintenir une recherche de base de très bonne qualité qui ne rencontrerait pas tous les critères de la sélection ultime, mais qui constituerait le terreau indispensable à l'émergence de projets d'envergure et au maintien d'une diversité d'idées et de domaines. Quel est le risque d'un potentiel appauvrissement de cette recherche? À nouveau, je ne doute pas qu'il s'agit d'une question qui pourrait être soulevée ou qui sera soulevée aujourd'hui. Et nous avons d'ailleurs déjà soulevé cette question lors du débat qui a été tenu en février, lors de la rencontre entre la secrétaire générale du FNRS, Mme Allouin, et les chercheurs de notre université. J'avais, de même qu'elle d'ailleurs, soulever et marquer notre attention particulière à cette question. Alors, quelle peut être et quelle est l'expérience d'un vice-recteur à la recherche? Je serai amené d'ailleurs à en reparler avec vous à la fin de cette journée, sur ce sujet de l'évaluation de la recherche. Alors, j'avais consulté la liste des participants et j'avais noté évidemment avec beaucoup d'intérêt que nous avions et nous aurons la chance de compter parmi nous trois anciens vice-recteurs à la recherche de l'université, c'est-à-dire l'expérience en la matière qui sera présente dans cette salle, en tout cas en fin de journée. Alors, pour ce qui me concerne, et ceci après quelques mois de mandat, aussi paradoxal que cela puisse paraître à première vue, et donc autant que je puisse en juger depuis ces quelques mois, le rôle d'un vice-recteur à la recherche dans l'évaluation de la recherche est en fait relativement modeste, et pour cause. L'université, en réalité, ne dispose en fonds propres ou en fonds en gestion que de très faibles moyens financiers qu'elle peut mettre à la disposition de ses chercheurs. Et donc le rôle du vice-recteur vise bien plus à aider les chercheurs à identifier des opportunités, à catalyser des initiatives novatrices, voire éventuellement à suggérer de nouvelles pistes de réflexion structurelle d'organisation de la recherche permettant dès lors de rencontrer ces nouvelles opportunités. Alors bien sûr, un autre aspect que la recherche de financement, et nous le verrons probablement au cours de la journée également, l'évaluation de la recherche ne concerne pas uniquement ce financement, mais prend sa place aussi dans le décours des perspectives de carrière de chacun, et pour ne pas les citer, dans les phases de promotion auxquelles chaque enseignant-chercheur, chaque chercheur peut prétendre au cours de sa carrière. Alors, le colloque d'aujourd'hui s'intègre donc dans le cadre des séminaires « Il y a Prigogine, penser la science ». Donc, je reprends ici quelques éléments qui sont présentés dans leurs notes de présentation, donc comme indiqué dans ce résumé. Le séminaire « Penser la science » est organisé depuis une dizaine d'années, je pense, par l'Université libre de Bruxelles afin de promouvoir échanges et débats, appelé à nourrir une culture des sciences et aussi de toutes les sciences dans leur diversité vivante. Il porte le nom d'Ilia Prigogine afin d'honorer la mémoire de celui qui ne fut pas seulement un grand physicien, mais aussi un homme de culture, dont l'œuvre a été irriguée par le souci de la cohérence de nos savoirs et par l'exigence qu'il crée un véritable dialogue avec le monde qu'il cherche à décrire. Il s'agit donc, lors de ces séminaires, ce sera bien l'objet d'aujourd'hui, de penser la science à partir de contrastes forts faisant ressortir les reliefs du paysage des pratiques scientifiques contemporaines. Alors, dans le cadre des pratiques de l'évaluation, des différences sensibles d'approche peuvent notamment se faire jour entre domaines scientifiques ou entre écoles scientifiques. Et donc, les organisateurs ont été attentifs à cet aspect de la question en variant les intervenants et en cherchant un point de vue qui inclurait ces différences dans la mesure du possible. Alors, le colloque d'aujourd'hui est organisé, comme vous l'avez vu, en deux sessions. La première permettra de contextualiser la thématique, de cadrer les différents niveaux d'analyse, tandis que la seconde fait intervenir davantage les acteurs du terrain et se terminera, comme vous le savez, par un débat. Alors, les organisateurs insistent beaucoup, je m'en fais donc le relais, et ils ont raison sur le fait que l'aspect débat sera important durant toute la journée. Donc, pour le dire autrement, les organisateurs et moi-même, nous encourageons à donc participer très largement tout au long de la journée par vos interventions. Les exposés critiques se veulent donc constructifs, parce que l'évaluation, mais encore une fois, c'est un élément du débat, est nécessaire. Et du débat pourraient émerger des propositions. Et donc les organisateurs, et là de nouveau je m'en fais le relais, réfléchissent à organiser un second événement qui aurait lieu en octobre et qui traitera davantage des propositions. Et donc ils m'indiquent à cet égard de vous transmettre le fait que vous avez reçu dans votre farde une feuille que vous êtes invité à remplir avec vos suggestions, vos propositions de modifications si vous le souhaitez. Alors pour conclure, avant d'ouvrir les sessions qui vont suivre, je voudrais remercier vivement les orateurs qui ont accepté, donc tous les orateurs qui ont accepté de partager avec nous leurs connaissances et ou leurs expériences en la matière. Et je remercierai plus particulièrement les orateurs qui nous viennent de l'étranger, donc les professeurs Dominique Pestre de Paris et Yves Gingras de Montréal. Je remercie aussi très vivement la secrétaire générale du FNRS, Véronique Allouin, qui nous a rejoints, et je l'ai vu entrer, et le président du Conseil européen, pardon, excusez-moi, madame la secrétaire générale, je suis tellement ravi de vous voir parmi nous, et le président du Conseil européen de la recherche de l'ERC, le professeur Jean-Pierre Bourguignon, que je remercie également très vivement d'avoir accepté de se prêter au jeu du débat et de la table ronde en fin de journée. Je pense que je me fais le porte-parole de tous les organisateurs à cet égard, de vous remercier d'avoir bien accepté de participer à cette journée et surtout à cette table ronde en fin de journée. Alors nos remerciements évidemment et félicitations pour l'organisation de ce colloque vont aussi au comité scientifique et organisateur, nos collègues Hugues Bersini, Marek Hudon, Bruno Leclerc, Benoît Timmermans et Edwin Zakaï. Et donc, en terminant, je voudrais évidemment vous remercier aussi pour votre présence en ce samedi ensoleillé et en vous souhaitant et nous souhaitant à tous une excellente et fructueuse journée de réflexion, d'échange, dont nous pourrons, et je le suppose, évaluer à un moment les retombées positives dans les mois et années futures. Et je vais donc céder la parole maintenant, après ces mots d'introduction, à Edith Zakaï qui va présider la première session. Bonne journée, je vous remercie.